Le guide suprême de la révolution islamique a appelé à l'unité lors des sermons de la prière de l'Aïd el-Fitr. L'Ukraine a planifié des attaques contre les forces russes en Syrie et une trêve de 3 jours à l'occasion de l'Aïd el-Fitr au Soudan. C'était les principaux titres en voici le journal. Des centaines de milliers d'Iraniens accomplissent ce samedi 22 avril la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan en Iran. Les Téhéranais se sont réunis dans la grande mosquée de la capitale, Mosalla, à partir du 7 heures du matin, heure locale. Les sermons de la prière ont été prononcés par le leader de la révolution islamique. L'événement a rassemblé toutes les couches de la société, en particulier des enfants et des adolescents. À la fin de la prière, le leader de la révolution islamique a présenté ses félicitations à tous les musulmans du monde entier. Cette année, les rituels du mois béni de Ramadan ont été organisés avec plus d'enthousiasme. Et les jeunes ont massivement participé au rituel de la nuit du destin, Laylatul Qadr, et aux séances de récitation du noble Coran. Le mois de Ramadan est le mois du djihad. Au début de l'islam, la bataille de Badr et la conquête de la Mecque ont eu lieu pendant le mois béni de Ramadan. Dans la conjoncture actuelle, la journée mondiale de Quds est le jour de la lutte de la nation iranienne contre le régime israélien et d'autres nations se sont inspirées du peuple iranien pour condamner les crimes du régime sioniste. L'une des caractéristiques du Ramadan est le renforcement de la volonté. Parmi les grandes et importantes caractéristiques du jeûne figure le renforcement de la volonté humaine. La volonté est un trait que Dieu a incorporé dans les êtres humains afin d'aller de l'avant et progresser. Les fonctionnaires de l'État devraient saisir l'occasion qui s'offre à eux. C'est par le renforcement de la volonté que les problèmes majeurs du pays pourront être résolus, a souligné l'Ayatollah Khamenei. Les trois pouvoirs de l'État devraient travailler pour renforcer l'empathie et la synergie. Il a également exhorté les responsables iraniens à ne pas se laisser distraire par des questions. insignifiantes et à se concentrer principalement sur la manière de surmonter les problèmes critiques. Plus loin dans ses propos, il a appelé le peuple iranien à préserver son unité. Depuis le début de la révolution islamique, cette unité a ouvert des routes difficiles au peuple, a-t-il réaffirmé. En allusion au complot de l'ennemi, il s'est exprimé en ces termes. L'ennemi s'oppose à l'unité et à la solidarité du peuple et il sème la division au sein de la population avec diverses opinions. Dans une société règnent différentes opinions et aucun obstacle n'empêche les gens de travailler et de vivre ensemble. Les tentatives de l'ennemi de rendre les gens pessimistes les uns envers les autres et envers les autorités doivent être déjouées, a-t-il préconisé. Et d'ajouter. Avant, l'ennemi recourait à la campagne militaire pour coloniser. Aujourd'hui, cette tactique est obsolète. Ils ont compris qu'on ne peut rien faire avec la force militaire. Ils ont donc changé de stratégie. L'ennemi ne veut pas qu'une telle unité existe. De nos jours, la stratégie de l'ennemi est ancrée dans la tromperie, le mensonge, le leurre, la déformation des faits, ainsi que l'humiliation des nations. L'ennemi essaie de rendre les nations pessimistes les uns envers les autres et de saper leurs capacités. Il nous incombe d'optimiser nos sciences et nos capacités pour connaître les agissements, les tactiques et les méthodes de l'ennemi. La nation intelligente et puissante d'Iran, qui jusqu'à présent a vaincu toutes les conspirations des ennemis, continuera à les décourager grâce à l'aide de Dieu, Tout-Puissant, a-t-il conclu. Le contre-amiral Mahmoud Mousavi, commandant adjoint de l'armée iranienne, a déclaré que l'armée avait renforcé la puissance de ses drones et qu'elle était actuellement capable de mener des opérations défensives pour atteindre facilement des cibles éloignées. Lors d'une interview télévisée vendredi 21 avril, le contre-amiral Mahmoud Mousavi a affirmé que l'armée était en possession de drones et de systèmes de missiles entièrement fabriqués dans le pays qui peuvent détruire les cibles stratégiques et lointaines de l'ennemi. Il a ajouté qu'un seul drone ou un essaim équipé de systèmes de missiles de précision avec différentes portées pouvait également être utilisé contre les cibles prédéterminées. Jeudi 20 avril, l'armée iranienne a réceptionné plus de 200 drones de lancement stratégique en mer à décollage et atterrissage vertical conçus et fabriqués par le ministère iranien de la Défense en coopération avec l'armée. Les nouveaux drones anti-radars mènent des missions de reconnaissance, de destruction, de reconnaissance de combat, d'interception aérienne et de frappe de cibles mobiles et fixes avec une faible section radar. La livraison des nouveaux drones à l'armée s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu avec le ministère de la Défense en 2022 pour renforcer la puissance des drones des forces armées. Dans le cadre de la première phase de l'accord, le ministère s'est engagé à équiper l'armée de 1 000 drones. Le chef de l'Organisation des industries de l'aviation iranienne, le général de brigade Afshin Hajefard, a déclaré vendredi que le ministère de la Défense avait réussi à fabriquer des sous-systèmes de drones et à acquérir divers produits de drones dotés de différentes fonctions dans le but de fournir à l'armée une gamme d'équipements. Il a souligné que toutes les organisations et entreprises basées sur la connaissance affiliées au ministère de la Défense étaient capables de produire en masse des équipements militaires dans un avenir proche. Les drones de fabrication iranienne sont dotés de performances basées sur l'expérience des champs de combat réels. Le document Top Secret du renseignement américain divulgué récemment révèle que les services de renseignement militaire ukrainiens ont élaboré des plans pour mener des attaques secrètes contre les forces russes en Syrie avec l'aide des Kurdes locaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné l'arrêt du plan en décembre, mais le document divulgué, basé sur les renseignements recueillis le 29 janvier 2023, détaille comment une telle campagne pourrait se dérouler si l'Ukraine la lancerait, a rapporté le Washington Post après avoir obtenu le document Top Secret. Lors de l'élaboration du plan en décembre, les officiers du renseignement militaire ukrainien ont choisi d'attaquer les positions russes à l'aide de drones ou de limiter les frappes aux forces du groupe Wagner, a révélé le document secret. Les forces ukrainiennes songeaient à la formation d'agents des soi-disant forces démocratiques syriennes FTS pour attaquer les positions russes et mener des activités d'action directe non spécifiées ainsi que des attaques de drones, selon le document. Pendant ce temps, les FTS, en échange de leur soutien aux opérations ukrainiennes, ont demandé une formation, des systèmes de défense aérienne et une garantie que leur implication serait gardée secrète, selon le document qui notait également que la direction des FTS avait interdit les attaques contre les forces russes dans les zones kurdes. Il s'agit de l'un des documents de renseignement qui aurait été divulgué dans le salon de discussion Discord par Jacques Teixeira, membre de la garde nationale aérienne du Massachusetts qui a ensuite été arrêté. Les documents semblent contenir des informations sensibles sur le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine depuis plus d'un an. Selon un sondage de BVA pour RTL, un an après sa réélection, la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Avec 26% de bonnes opinions, le président est à son plus bas niveau depuis 2017 et atteint le même palier que durant la crise des Gilets jaunes en octobre 2018. Toutefois, son socle électoral lui reste attaché et 70% de ses électeurs du premier tour ont une bonne image de lui. Selon ce sondage, malgré la promulgation de la réforme des retraites et alors que les tensions et les manifestations sont toujours présentes, 63% des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive. La colère est dominante puisqu'elle est ressentie par 45% des Français, quand 38% se disent inquiets. Il est reproché à Emmanuel Macron d'être déconnecté et pas assez à l'écoute du pays. Le recours au 49.3 et la promulgation rapide de la loi ont été perçus comme un passage en force. Seuls 36% des Français estiment que le chef de l'État a encore une stature présidentielle. La méthode du président est critiquée. Il est jugé hautain et imbu de lui-même. Après la bataille contre la réforme des retraites, la popularité de l'exécutif est en baisse. Ainsi, seuls 26% des Français ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron, quand 32% ont une plutôt mauvaise opinion du président et 41% ont une très mauvaise opinion. Elisabeth Borne recueille, quant à elle, 27% de bonnes opinions. En avril 2022, 46% des Français avaient une bonne opinion du président. Un an après sa réélection, 60% des Français estiment qu'Emmanuel Macron a des convictions profondes et 43% pensent qu'il est capable de prendre les décisions qui s'imposent. Dans le même temps, seuls 13% des interrogés le qualifient de rassembleur, contre 28% en avril 2022. Malgré son allocution lundi 17 avril, durant laquelle il a donné des pistes pour les prochains mois, Macron n'a pas réussi à convaincre. Seulement 26% des personnes interrogées ont jugé ses objectifs réalistes. Une enquête menée par le groupe PVA, dont les résultats ont été publiés vendredi 21 avril, a montré que la popularité du président français a atteint son plus bas niveau depuis sa prise de fonction. L'enquête précitée a été réalisée en ligne pour la radio RTL auprès de 1200 Français de plus de 18 ans, les 18 et 19 avril. Emmanuel Macron a été copieusement hué par des manifestants en marge de son déplacement en Alsace le mercredi 19 avril. Il s'agissait pour le président du premier déplacement de ses 100 jours. L'intersyndicale lui avait promis des concerts de casseroles. Pour son retour sur le terrain post-réforme des retraites, le chef de l'État a été hué en Alsace. Au bruit de casseroles et de sifflets se sont entremêlés des Macron démission dans le bourg de Sélestat. L'un des participants l'a accusé d'avoir un gouvernement corrompu à une échelle sans précédent et a souligné que son gouvernement tomberait bientôt. Macron est sous le feu des critiques acerbes pour avoir refusé d'augmenter les impôts des riches. Les critiques ont également dénoncé la réforme des retraites comme un fardeau croissant pour les travailleurs. Les citoyens français ont organisé jusqu'à présent plusieurs séries de manifestations et de grèves contre le président Emmanuel Macron. L'armée soudanaise a déclaré qu'elle avait accepté une trêve de 3 jours à compter de vendredi pour permettre que l'on célèbre l'Aïd al-Fitr comme il se doit après près d'une semaine de combats entre ses troupes et une force paramilitaire rivale, FSR. Le communiqué de l'armée publié vendredi 21 avril a déclaré « Les forces armées espèrent que les rebelles respectent toutes les exigences de la trêve et qu'ils arrêteront toute action militaire qui y fera obstacle. » Les forces paramilitaires de soutien rapide soudanaises ont accepté cette trêve de 72 heures plus tôt dans la journée, mais il n'était pas immédiatement clair quand ce cessez-le-feu démarra. Suite à l'annonce de l'armée, les médias citant des témoins ont indiqué que des tirs nourris se poursuivaient dans la capitale Khartoum. Vendredi, coups de feu et explosions ont crépité sans relâche toute la journée, rythmés par le bruit sourd de l'artillerie et des frappes aériennes. Des images de drones ont montré plusieurs panaches de fumée à travers Khartoum et ses villes sœurs du Nil, ensemble l'une des plus grandes zones urbaines d'Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le combat de près d'une semaine a fait au moins 400 morts et 3200 blessés, principalement dans la capitale et l'ouest du Soudan. La situation a fait basculer le troisième plus grand pays du continent africain, où environ un quart de la population dépend déjà de l'aide alimentaire, dans une catastrophe humanitaire. Les médecins soudanais ont mis en garde contre une situation sanitaire catastrophique, en particulier à Khartoum, où de nombreux hôpitaux auraient été pris entre deux feux. Le conflit est né d'une lutte de pouvoir entre le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan et son adjoint Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, qui commande les forces de soutien rapide autour d'un projet d'intégration des combattants paramilitaires dans l'armée régulière. C'était le journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, je vous présente le commentaire politique. Israël s'approche à grands pas de sa fin. Samedi, à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, l'honorable Ayatollah Sayyed Ali Khamenei a reçu en audience à Téhéran les ambassadeurs des pays islamiques. Lors de cette rencontre, il a souligné que le monde musulman devrait se concentrer sur le renforcement des combattants palestiniens à un moment où Israël s'approche à grands pas de sa fin. Aujourd'hui, nous assistons au déclin progressif du régime usurpateur sioniste qui s'est accéléré de plus en plus, a-t-il souligné. La stratégie du monde musulman devrait se concentrer sur le renforcement des combattants à l'intérieur de la Palestine. Comment un Européen, dont le gouvernement est un allié du régime sioniste, scande des slogans dans la rue en faveur du peuple palestinien et contre ce régime? il est tellement important. Pourquoi est-ce comme ça? La résistance interne du peuple palestinien est la principale raison de ses acquis. A-t-il réitéré en allusion au renforcement de soutien au peuple palestinien partout dans le monde? Dans l'optique de l'ayatollah Khamenei, plus cette résistance sera fermée, plus le régime sioniste sera affaibli et plus ses atrocités seront dévoilées au grand jour. La situation ô combien désastreuse à laquelle le régime sioniste est confronté aujourd'hui est le résultat de l'endurance dont fait preuve la jeunesse palestinienne, a-t-il réaffirmé. Plus loin dans ses propos, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que tous les facteurs pendant le mois béni de Ramadan contribuent à rapprocher les cœurs, que ce soit au sein d'un pays ou dans l'ensemble de l'Oumma islamique. Les autorités des pays islamiques devraient profiter de cette occasion pour créer l'unité et la solidarité au sein de l'Oumma islamique. Aujourd'hui, notre problème est la division, même si le noble Coran l'interdit, a précisé l'honorable Ayatollah Khamenei. Si l'Oumma islamique, qui compte aujourd'hui près de 2 milliards d'âmes, est répartie dans les zones géographiques les plus importantes et les plus sensibles du monde, était unie, les pays islamiques obtiendraient beaucoup plus de bénédictions, a-t-il souligné. Évoquant la question de la Palestine et la journée mondiale de Quds, le leader a indiqué qu'elle n'est pas seulement une affaire islamique, mais une question humaine. Les rassemblements contre le sionisme lors de la journée de Quds aux États-Unis et dans les pays européens résultent des révélations sur les crimes du régime usurpateur, a-t-il indiqué. Il y a plusieurs décennies, Ben-Gurion, l'un des fondateurs du régime factice d'Israël, a déclaré que chaque fois que notre pouvoir de dissuasion prendra fin, nous serons détruits. Et maintenant, le monde en est témoin. Et si rien ne se passe, la fin du régime usurpateur est proche, ce qui est aussi d'une des bénédictions de la jeunesse palestinienne en Cisjordanie et dans d'autres territoires occupés de la Palestine. Le leader de la révolution islamique a décrit la soumission à l'islam comme le principal facteur du renforcement de la lutte des pro-palestiniens. L'islamophobie des ennemis est le résultat de la perception du pouvoir de l'islam dans le renforcement de la nation palestinienne et d'autres nations. Bien sûr, par la grâce de Dieu et la vigilance des nations musulmanes, cette stratégie n'ira nulle part, a-t-il ajouté. En allusion au rôle du défunt imam Khomeini dans le soutien à la cause palestinienne, il a conclu. Son mouvement se poursuivra et nous espérons que le peuple iranien sera témoin d'un jour où les musulmans de tous les pays islamiques prieront ensemble et librement à Quds.